Pour bien comprendre ce que je veux faire ce soir, ceci est né d'une expérience, quelque chose qui s'est passé réellement. Un jour, je me rappelle, j'étais à l'entrée de mon dortoir, là où j'étudiais, et un jeune homme est arrivé. C'est un jeune homme qui étudiait aussi la théologie, comme moi-même. Il était à un niveau beaucoup plus avancé. Et il vient me voir affolé, courant, à l'entrée de ce dortoir. Nous étions un groupe de personnes. Et il me dit, Wilfried, aurais-tu une Bible? Alors je lui dis, yep, passe-moi cette Bible. Je lui dis, ok. Et il me dit, tu sais quoi? Il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a dérangé. Et j'ai été voir un prof, mais sa réponse ne me satisfait pas. C'est vrai que quand les profs sont un petit peu pressés, d'accord? Donc, il est venu me voir et il me dit, oui, il faut qu'on parle. Alors, lui, il était à un niveau beaucoup plus avancé. Et moi, j'étais peut-être qu'à ma première ou deuxième année. Alors, quand il vient me voir pour me demander ça, je suis un petit peu surpris. Je dis, ok, je t'écoute quand même. Et le bonhomme me dresse une problématique. Il me dit, tu sais quoi, Will? La Bible se contredit. Je ne peux pas être un étudiant pour la théologie, aller enseigner aux gens des choses dans la Bible qui se contredisent. Je l'ai regardé et j'ai fait waouh. Je me suis rendu compte que, à partir de cette expérience que j'ai vécue avec ce jeune homme, lorsque je suis arrivé ici, c'est avant-hier, lorsque je vous avais annoncé le sujet, mais c'est parce que j'avais déjà lu, j'ai lu quelques articles dans la chambre d'hôtel là où je suis, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici qui mettent en doute la Bible, son origine. Ils mettent en doute le fait que Dieu ait pu inspirer les hommes à cette parole. Et je me rappelle dans un article que j'ai lu, écrit par un Parisien, je ne me rappelle pas de son nom. Yep. Et lorsque j'ai lu l'article, je me suis dit, waouh, ce jeune homme a pris un tas de versets bibliques qui pour lui présentent un problème. Il dit qu'à un endroit, par exemple dans Exode, en quelque part, la Bible dit ça, 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 et que lorsqu'il va ailleurs, il a l'impression que la Bible se contredit. La Bible se contredit dans le sens où ce qui a été dit, par exemple, dans Exode, lorsqu'il va dans Nombre, il voit autre chose. Et il a écrit un long article sur ça avec plein de textes. Mais à chaque fois que j'ai lu les versets qu'il prend, lorsque je lisais le texte, j'allais dans la Bible sans faire aucune recherche. J'aurais pu lui expliquer en deux temps, trois mouvements ce qu'il prend pour un problème. Alors j'ai décidé de venir avec un vrai problème. Yep, le défi, j'ai relevé le défi franchement. J'ai décidé de venir avec un vrai problème. Et ce vrai problème sort de cette histoire que j'ai eue avec ce jeune homme. Parce que lui est venu avec un vrai problème. Et ce vrai problème, ce soir, je vais vous le montrer. Ce soir, nous allons prendre ces trois textes. Nous avons Matthieu 8, Marc 5 et Luc 8. Je m'en veux. Vous savez pourquoi je m'en veux? Parce que j'ai été souligné les problèmes. Là, j'aurais pu vous poser la question, où est le problème ici? Et je suis sûr que vous auriez fait comme mon épouse parce que je lui ai fait la chose et elle n'a pas vu le problème tout de suite. Le problème, lisons le premier texte. Matthieu 8 au verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dans Marc 5, nous avons cette même histoire, enfin qui pour moi est la même histoire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Luc, de son côté, nous dit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Nous avons deux problèmes ici. Quitte à venir avec un problème, autant venir avec un vrai problème que d'aller écrire un article de 15 pages qui ne présente aucun problème. D'accord. Donc, nous avons dans Matthieu 8 deux choses. Nous avons Matthieu qui nous dit qu'ils étaient dans le pays où des Gadaréens. Ensuite, Matthieu dit combien de gens qu'il y avait? Deux. Regardons dans Marc. Marc rapporte une histoire similaire. Et Marc dit... Oups, on a un pointeur. Il est où? Mon ami, ton pointeur ne fonctionne pas avec ton écran. Ça me dérange pour tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai quelque chose à te montrer sur une carte. Ok, donc dans Marc 5, Marc, on voit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Il n'y a pas de problème. Marc est en accord avec Matthieu. Ok? Mais voici la chose. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant lui combien? Combien? Matthieu a dit combien? Matthieu a dit deux. Marc reprend ce qui pour moi est la même histoire et dit un. Maintenant, regardons ce que Luc dit. Hier, nous avons parlé de Luc. Il y a une chose particulière que j'ai dit à propos de Luc. J'ai dit quoi? Qu'il était quoi? C'était plus un chercheur. Il a écrit une espèce d'article, mais il a fait des recherches pour écrire cette espèce d'article que nous avons dans la Bible. Maintenant, nous voyons que Luc dit, ils abordèrent dans le pays des what? Des quoi? Alors que Marc et Matthieu disent quoi? Wow. Des versions? Qui a parlé de la version? As-tu une autre version? Tu as gardé rien dans Luc? Intéressant. C'est quelle version? Second? Ça, c'est un second révisé. Je te le confirme. Donc, et nous avons aussi, on voit aussi que Luc dit une chose intéressante. Luc dit qu'au devant de lui vient combien d'hommes? Un homme. Donc, Luc et Marc s'accordent pour dire que ce n'était qu'un homme. Sommes-nous en face? Ok. Et Matthieu et Marc s'accordent au niveau du lieu. Et ils disent que le lieu, c'était en Gadaré. D'accord? Et même ta version, tu verras qu'il y a peut-être un petit souci. D'accord? Mais alors que Luc nous donne une autre chose pour le lieu. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est ça qui a perturbé le jeune homme sur le campus. Parce qu'il m'a dit, mais écoute, Dieu est constant. Et si Dieu est constant, lorsqu'on doit lire la Bible, on doit retrouver cette même constance dans les Écritures. Il ne peut pas avoir un déséquilibre dans les Écritures. Alors il a été prendre son grec, parce que tout bon étudiant a une Bible en grec. Et il va vérifier dans son grec. Il revient aussi dépité. C'est pour ça que j'ai même pas pris la peine de faire ça ce soir. Il revient aussi dépité. Maintenant, allons plus loin et regardons ce qui se passe. Donc, afin d'apporter une réponse, nous avons commencé, lui et moi, par remettre les trois textes dans leur contexte immédiat. C'est important. Chers amis, lorsque vous lisez votre Bible, et je m'adresse à mes amis qui nous visitent ce soir, lorsque vous lisez votre Bible, s'il vous plaît, ne prenez pas un texte comme ça. Vous devez replacer ce texte dans son contexte. Aujourd'hui, vous avez plein d'hommes qui trompent d'autres hommes. Juste avec un verset. Et lorsque ce même verset, vous le prenez, vous le remettez dans son contexte, vous découvrez que cet homme est un menteur. Sommes-nous en phase, chers amis? Étant donné que les choses doivent être faites convenablement, j'utilise une méthode que je veux vous donner. La méthode que j'utilise est, vous venez devant moi avec un texte, vous me direz, la Bible dit ça. Je vais t'écouter, je vais te dire, ok, d'accord, je vais écouter tout ce que tu as à dire. Je ne dirai pas un seul mot. Mais crois-moi, lorsque je vais rentrer chez moi, je vais prendre ce texte et je vais carrément faire une exégèse de ce texte pour comprendre réellement ce que dit ce texte. Je n'avalerai pas ce que tu m'as dit. J'irai voir pour moi-même. Sommes-nous en phase? Et c'est ce que je vous encourage à faire. C'est très important, sans quoi vous avez toute espèce de charlatans qui vont vous tromper sur toute espèce de choses. Donc, nous avons commencé par remettre ce texte dans son contexte immédiat. Et le résultat fut surprenant car il s'agit bel et bien ici du même récit. Ces trois hommes sont en train de parler de la même chose. Si vous prenez le texte, vous allez voir qu'il s'agit de Jésus qui a traversé la mer, qui est arrivé sur le rivage et qui a rencontré ce fameux démoniaque. Il s'est passé quelque chose après qui fait qu'ils l'ont chassé. Les trois nous donnent la même chose, sauf qu'il y en a un qui ne s'éternise pas trop longtemps sur l'histoire, c'est Matthieu. Il nous donne l'essentiel et nous avons Marc et Luc qui, eux, sont un petit peu plus longs, mais ils disent la même chose. Donc, par rapport à ça, en analysant ces trois textes, on comprend qu'il s'agit bel et bien du même récit. Et là, nous avons un problème. Parce que s'il s'agit bel et bien du même récit, on comprend qu'il y a un problème. Alors que nous savons que Dieu est un Dieu comment? Constant. Et ces hommes disent qu'ils viennent de sa part. Ce sont des hommes qui disent, il y en a un qui est un témoin visuel qui est Matthieu. Et vous avez deux autres, chers amis, qui ont travaillé dur pour le Seigneur. D'accord? Et nous avons cette espèce de chose déséquilibrée ici. Donc, pour commencer, je me suis dit, je vais jeter d'abord un coup d'œil à ma carte. J'ai pris une carte version anglaise. Pourquoi? Parce que c'est celle qui m'intéressait le plus. J'ai regardé d'autres cartes, je suis allé à travers Internet. Et bon, bref. Donc, j'ai trouvé celui-là, et celui-là est très intéressant. Et c'est là que j'ai besoin de mon pointeur. Et c'est là que mon pointeur ne fonctionne pas. Mon pointeur ne fonctionne pas. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va essayer de travailler comme ça. Wow, j'allais faire quelque chose de fou là, mais on va arrêter là. Donc, si vous regardez, vous avez une trace de stylo en bas. Sur cette trace de stylo, vous avez quoi? Jeraza. Très important pour moi. Et lorsque vous regardez en haut à gauche, un petit peu en haut de Bethany, ça me gêne, j'aurais aimé avoir le pointeur. En haut, vous voyez qu'il s'est écrit Gadara, sommes-nous en face. Mais la chose la plus intéressante pour moi n'est pas encore ici. La chose la plus intéressante pour moi, nous sommes ici dans la NIV. D'accord? C'est une version anglaise. Donc nous sommes dans la NIV ici. Et la NIV situe la chose parce que cette carte est la carte qui dépeint le trajet de Jésus. Très intéressant. Il n'y a pas une aussi bonne que ça en français. C'est dommage. Donc, vous voyez bien que ici, dans cette Bible NIV, on voit que au niveau de Gergesa Kirsi, il est écrit que c'est là que Jésus a guéri l'un ou les bonhommes. On voit que Marc 5:1 nous réfère à cela. Luc 8, 26 nous réfère à cela. Mais j'ai un petit problème. Yep, man. Aïe, hallelujah. Give it to me. Non. Non. Ok. Donc, nous sommes ici. On voit que ici, nous avons que la NIV nous fait savoir que Marc et Luc situent l'action ici. Mais suivez-moi bien. Vous allez rigoler de cela. Ensuite, on voit que la NIV situe l'action ici avec Matthieu, à Gadara. D'accord? Mais maintenant, suivez-moi bien, quand on va toucher du doigt le problème. Sur cette carte qui nous vient de la NIV, nous voyons que Marc et Luc, ne touche pas à ça. Sur cette carte qui nous vient de la NIV, nous voyons que Marc et Luc sont ensemble sur ici. Marc et Luc sont ensemble sur Gergesa, on va l'appeler comme ça, hein. Ok, Kirsi. Ils sont ensemble ici. Et sur cette même carte, on voit que Matthieu se situe à Gadara. Maintenant, si on revient sur le texte nous dit dans Matthieu 8, 28 que lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, ça c'est Matthieu qui parle. Donc, on voit que Matthieu est situé au bon endroit. Sommes-nous en face? Nous avons Gadara ici. Mais le même texte dit avec Marc 5, 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Donc, où Marc situe l'action? Où? À Gadara. Où est Marc ici? Je vous ai dit que ce soir, j'allais vous perturber. Où est Marc ici? Ici, la NIV ne place pas Marc à Gadara, mais la NIV place Marc où? Ici. Alors que les écrits sont clairs, sommes-nous en face? Ouh, certains vont dire, tu vois, j'avais raison. Nous servons un Dieu constant, mais la chose est déséquilibrée. Continuons. Ok, donc on voit que Luc nous envoie où? Chez les Géraséniens. Et où se trouve ce pays, Gerasa? Ici. Et où est Luc? Nulle part. Parce que la NIV a placé Luc ici. Donc, si on prend cette carte et on la superpose avec les Écritures, déjà avec cette carte, on a un problème. Sommes-nous en face? Et je l'aime, cette carte, parce qu'elle est précise. Continuons. Donc, si on continue, on voit que grâce à la carte, nous voyons que Gadara, qui est ici, est à environ, certains disent 9 kilomètres, d'autres disent 10 kilomètres, mais c'est à environ à 9 ou 10 kilomètres de la côte. D'accord? Maintenant, si on regarde Gerasa, on voit que Gerasa est ici. On va dire environ 50 kilomètres de la côte. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous, mes amis, nous faisons une étude biblique, il faut être avec moi. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes à plus de 50 kilomètres de la côte. Alors que l'histoire rapporte que les trois auteurs dans cette histoire nous rapportent que Jésus, c'est lorsqu'il a accosté, lorsqu'il est descendu du bateau, que l'action a pris place. Maintenant, dites-moi une chose. Si on reste dans le timing de la parole, on va voir qu'il y a un problème sur cette carte. Parce que la parole nous dit que, à peine qu'ils ont accosté, Jésus est descendu du bateau. Lorsqu'il est descendu du bateau, les bonhommes sont arrivés. Les ou le bonhomme, ils sont arrivés. Maintenant, suivez-moi bien. Comment cela est-il possible à Gadara, qui est à 9 kilomètres, ou même voire 10, pour certains? Maintenant, Luc reprend la même histoire, et Luc est encore plus précis, parce que Luc, lorsqu'on lit, nous laisse vraiment entendre que l'action est, il n'y a pas d'interruption dans l'action. Sommes-nous en phase? Maintenant, s'il n'y a pas d'interruption dans l'action, à quel moment Jésus aurait pu faire 50 km avec ses disciples pour que cette action se fasse aussi rapidement? Puisque regardez, lisons le texte ensemble. Dans Marc 5, 1. Dans Marc 5, 1, on voit, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Marc n'est pas précis. Matthieu n'est pas précis. Maintenant, regardez Marc. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Oh non, ce texte n'est pas, c'est pas celui que je veux. Alors, suivez-moi bien. Je lis pour vous. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, nous dit Marc 5 au verset 2. Vous avez vu le aussitôt? Avez-vous vos Bibles? 5 verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme. Et c'est qui parle? C'est Marc. Ça m'étonne que je n'ai pas ça là. Donc, on voit aussi dans Luc 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, je vous avais dit que Luc est encore plus précis, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville, sommes-nous en face? Donc on comprend qu'il n'y a pas d'interruption dans cette action. Il a voyagé, il a accosté, une fois descendu du bateau, l'action prend place, sommes-nous en phase. Mais maintenant, si on regarde la carte, si on revient à cette carte, si on revient à cette carte, on voit que ce qui était peint ici n'est pas possible ici. Sommes-nous en phase. Wow. Alors là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu de l'action. Je vous ai mis dans la position de ces gens qui critiquent la parole de Dieu parce qu'ils disent, oh, Dieu est un Dieu constant. On nous présente Dieu comme un Dieu constant. Et lorsqu'on lit la Bible, quel désordre. Mais quel désordre. Comment pouvez-vous croire en un Dieu comme cela? Donc, ils soutiennent avec ces arguments que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Oui, c'est vrai, ce sont des hommes. Mais il en manque une chose. Continuons. Donc, si nous considérons cette carte, la chose devient impossible. Cependant, en bon étudiant de la Bible que nous sommes, si nous faisons des recherches, nous pourrons, comment on dit ça encore, dénouer ce sac de nœuds. Ok, donc, un érudit du nom de Clément Kopp nous rapporte que la Césarée des évangélistes Marc et Luc serait à identifier avec une cursa. Vous allez comprendre. Maçonnier par le Tamul. Donc c'est un bonhomme qui a fait des recherches ailleurs pour comprendre le problème qu'il y a ici. Et il dit qu'il correspondait au village actuel d'Erkilsis sur le lac juste en face de Magdala. Donc en fait, ce bonhomme est en train de dire que le problème que j'ai soulevé, il s'accorde avec moi sans problème. Effectivement, il y a un problème ici. Donc il a été cherché ailleurs. Parce que vous avez des hommes très intelligents, des juifs très intelligents qui ont écrit. Et le bonhomme a été chez les juifs chercher la réponse. Maintenant, en allant chez les juifs chercher la réponse, il nous rapporte que, en réalité, Marc et Luc nous parle d'un village qui est situé ici, dans cette ville. C'est un village côtier situé ici. On le voit ici, Cursi. Vous le voyez? Alors dites-le, Cursi. Ça réveille les endormis. Dites-le encore. Là, voilà, ça, là, il y en a un endormi qui est réveillé maintenant. Donc, si on analyse la chose, la NIV et juste lorsqu'elle souligne ici cette ville, Jéhadjéza, pour les hommes ici. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans cette bulle, devraient se trouver les trois noms. Est-ce que nous sommes en phase? Maintenant, comment expliquer cela? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Pouvons-nous tirer une conclusion de cela? Nous constatons un problème, premièrement, sur le nombre de personnes qui se présentent à Jésus. Un coup, il y en a qui disent deux. Un autre coup, il y en a un autre qui dit un. Ou encore, il y en a deux qui disent un. Et puis le témoin visuel dit deux, Matthieu. Et on voit de l'autre côté que si on va vers la carte qu'on nous présente pour cette problématique, il y a un problème. Et attention, ouh, Sean, c'est la NIV. Waouh! Il y a un problème. Donc, permettez-moi de vous secouer encore un petit peu. N'allez pas penser que c'est là seulement qu'il y a un problème. Il y a plein d'endroits encore dans la Bible où vous avez des problèmes. À certains endroits, vous voyez qu'un jeune homme est présenté comme étant un bonhomme qu'on a mis sur le trône, il avait 8 ans. Par exemple, dans le livre des Chroniques des Rois. Et lorsque vous allez dans le livre des Rois, l'auteur écrit qu'il avait 18 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Waouh! Waouh! Sean, pardonne-moi de te déranger, pasteur Sean Dowling. Est-ce que tu peux monter dans mon sac là où il y a deux bananes? Les deux bananes ne sont pas à manger, c'est pour mon illustration ce soir. Peux-tu me les prendre, s'il te plaît? Dans la poche de devant. Ok, merci. Donc, si nous poussons notre analyse plus loin, si nous analysons l'histoire en elle-même, nous voyons que ces détails ne changent rien au message que veut faire passer l'auteur. Ces problèmes ne changeaient rien au message que veut faire passer l'auteur. Donc maintenant, il faut savoir où nous positionnons. C'est vrai que c'est bien d'étudier la Bible, c'est bien d'aller en profondeur, mais à certains moments, il faut savoir dire stop et laisser la place à autre chose que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, le bonhomme est arrivé devant moi me présentant ce qui était pour lui une contradiction. Savez-vous ce qu'est une contradiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce qu'est une contradiction? Eh bien, vous savez que vous ne savez pas, vous faites comme moi. Il y a ce qu'on appelle un dictionnaire. Ça, on vend ça dans toutes les librairies. Et des fois, c'est dans vos foyers. Ça prend de la poussière. Je ne dis pas que chez vous, c'est sale. Hein? Mais ça prend de la poussière et on ne l'utilise pas. Et des fois, on utilise des mots et on ne sait pas ce qu'on dit avec ces mots. Alors, j'ai pris le temps de chercher ce qu'est une contradiction. Voici ce que me dit un dictionnaire en ligne. Une contradiction existe lorsque deux phénomènes scientifiques, qu'est-ce qu'il y a d'écrit après? Affirmation, qu'est-ce qu'il y a d'écrit après? Idée ou action s'excluent. Comment? Alors, relisons ça ensemble. Une contradiction, mes amis, vous êtes morts, Sean, je m'en vais. Je ne peux pas rester là, allez. On lit ensemble. Un, deux, trois, ensemble. Ok. J'ai oublié un papier important. Amène-moi ma banane, mon frère. Donc, on va voir une chose. On aura une petite illustration pour comprendre ce que je veux dire. Gardons à l'esprit la définition de ce qu'est une contradiction. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé ce soir. Mais je ne vais pas vous la laisser, c'est mon dîner. Voilà. Vous avez deux bananes que j'ai pris en quelque part aujourd'hui, parce que j'avais déjà mon illustration en tête. Alors nous avons ces deux bananes sur, on va appeler ça une table. Tout le monde voit les bananes? D'accord. Maintenant, nous allons voir une chose. On va faire deux phrases. Deux phrases. Si on dit, on va dire qu'il y a deux bananes sur la table. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Sauf ceux qui ne savent pas compter. Mais il y a deux bananes, effectivement, sur cette table. On va utiliser deux phrases pour décrire ce qui se passe ici. Est-ce que nous sommes en phase? Ok. Alors je vais dire, en première instance, il y a deux bananes sur la table. Première phrase. Il y a deux bananes sur la table. Maintenant, deuxième phrase. Il y a uniquement une banane sur la table. Est-ce que vous avez saisi la nuance? Non, on ne l'a pas encore saisi. il y a deux bananes sur la table. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons-y comme une chorale. Yep. Maintenant, la deuxième phrase, c'est il y a uniquement une banane sur la table. Allez, on répète. Vous avez saisi la nuance? Le mot important dans la deuxième phrase est uniquement. Revenons en face. Le mot important dans la deuxième phrase est uniquement. Donc, si avec le mot uniquement, cela déjà transforme l'idée. Et là, on se retrouve ici, dans une contradiction. Car ces deux phrases se contredisent juste avec le mot quoi? Uniquement. Uniquement fait la différence. Lorsque je dis il y a deux bananes sur la table, je suis en train d'affirmer quelque chose sans problème, il y a deux bananes sur la table. Maintenant, lorsque je dis il y a uniquement une banane sur la table, uniquement une banane sur la table contredit le fait qu'avant j'ai dit il y a deux bananes sur la table. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase? Non, on n'est pas encore en phase. On dirait que ça ne prend pas. Sean, je vais repartir, Sean. J'aime bien quand le peuple me donne l'envie de prêcher l'évangile. Maintenant, on va prendre deux autres phrases. Deux autres phrases. Il y a deux bananes sur la table. On répète ensemble. Deuxième phrase. Il y a une banane sur la table. On est là. Avez-vous vu la différence entre la quatrième phrase et la deuxième phrase? La deuxième phrase, c'était quoi, toi? Uniquement. Et la dernière, c'était quoi? Avez-vous saisi la nuance? Tu n'as pas encore saisi. Dans la première phrase, on dit « il y a deux bananes sur la table ». Dans la deuxième phrase, on dit « il y a uniquement une banane sur la table ». Le fait de dire « il y a uniquement une banane sur la table » fait de moi un menteur avec ma première phrase. Parce que je suis en train de dire « cet homme est un menteur parce qu'il y a seulement une banane sur la table ». Donc je contredis la première étape, première phrase. Maintenant, on a repris deux phrases. On a dit « il y a deux bananes sur la table ». Ensuite, on a dit « il y a une banane sur la table ». Je vais vous faire rire maintenant. Est-ce que lorsque je dis « il y a uniquement... » Non, lorsque je dis « il y a uniquement une banane sur la table », j'affirme de façon ferme qu'il y a uniquement une banane sur la table. Sommes-nous en face? Sommes-nous en face? On va aller plus loin, on va faire comme les enfants alors si vous ne comprenez pas. Ici, nous avons deux bananes. Lorsque je dis qu'il y a uniquement une banane, on se retrouve avec quoi? Uniquement une banane. Donc, on voit que la contradiction est claire. Maintenant, lorsque je dis « il y a deux bananes sur la table », vous me suivez? Et qu'ensuite, je reprends et je dis « il y a une banane sur la table », est-ce que c'est faux? J'ai enlevé le « uniquement », vous avez remarqué cela? Vous avez remarqué cela? Vous avez remarqué que j'ai enlevé le « uniquement » Bon, alors maintenant, il y en a qui se disent « mais où est-ce qu'il va ?» Ok, donc, comprenez bien une chose. Comprenez bien une chose. Comprenez bien une chose. Lorsque Marc, Luc disent il y avait un démoniaque et que Matthieu vient et dit il y avait deux démoniaques, Matthieu n'apportait aucune précision disant il y avait for sure, non, il y avait pour sûr, merci, deux démoniaques sur cette plage. Mais pour sûr, rien n'a pu enlever ça. Maintenant, lorsque les deux autres viennent après, ils ne disent pas il y avait uniquement un démoniaque sur cette plage. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils disent il y avait un démoniaque sur cette plage. Est-ce qu'ils ont menti? Non, puisque ce démoniaque était quand même là. Mais s'ils avaient dit il y avait uniquement un démoniaque sur cette plage, ils auraient fait de Matthieu un menteur. Est-ce que nous sommes en face? Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Là où ces hommes deviennent intéressants, c'est qu'en lisant sur ce territoire de Cursis, on réalise que ce village se trouvait en quelque part. Il y avait une petite plage, une espèce de petite crique, je prends des mots simples pour que vous me compreniez, une espèce de petite crique où c'est, on croit que c'est là que Jésus est entré. Mais lorsque des hommes ont repris ce chemin, ils ont réalisé que, en arrivant, on constate qu'il y a une espèce de, on va dire une espèce de vallée, une espèce de morne, et en arrivant du bateau, on voit déjà les tombes. Ce qui confirme cette théorie qu'a développée le bonhomme qui a fait ses recherches et qui nous rapporte qu'il est sûr que ça s'est passé en Quercie. Sommes-nous en phase? Parce qu'en arrivant, on voit déjà les tombes. Mais il faut savoir aussi qu'à cette époque, les lieux comme celui-là étaient considérés comme les hôpitaux psychiatriques. Donc dès que quelqu'un n'était pas bien ou quelque chose n'allait pas, on l'envoyait dans ce loin-là, dans ce coin-là. Allez, tu ne peux pas rester dans la ville. Il faut que tu sois hors de la ville. Va vivre dans les collines, va dans les grottes. Tu ne peux pas rester en ville. Il faut aller dans les grottes. Et ces bonhommes-là, d'après certains qui nous rapportent des faits, ils disent que ces bonhommes-là, en général, lorsqu'on empruntait cette petite plage, c'était les premiers à venir vous accueillir. Ils prenaient un malin plaisir à effrayer les gens. Est-ce que nous sommes en phase? Donc, on comprend qu'ici, ça se passe. Mais ça confirme une chose. Pour sûr, Jésus n'a pas vu qu'un homme. Silence. Parce que lorsqu'on lit l'histoire, on a l'impression qu'il est arrivé, ce bonhomme était isolé. Non. Il y avait toute une colonie de personnes qui vivaient là. Donc pour sûr, Jésus n'a pas vu qu'un homme. Donc lorsque Matthieu dit qu'il y avait deux démoniaques, qu'est-ce que Matthieu a menti? Donc lorsque Marc et Luc viennent après, ils disent qu'il y avait un démoniaque, est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont menti? Ils disent ce qu'ils ont vu. Maintenant, le problème vient du fait que chacun veut accentuer une chose. Toi et moi, nous verrons un accident dehors. Lorsque tu rentreras dans cette pièce et que tu vas raconter cet accident, comment il s'appelle? À Yasmina. Yasmina a une version. Je vais venir ensuite, je vais raconter à Yasmina cet accident. Yasmina a ma deuxième version. Quelque chose est sûr, c'est que s'il y a eu deux morts, Yasmina saura qu'il y a eu deux morts. Autre chose est sûre, c'est que si la voiture était cabouillée, Yasmina saura que la voiture était cabouillée. Maintenant, au niveau des détails, Yasmina aura de quoi faire. Pourquoi? Parce que lui, il va arriver, il va dire, quand je suis arrivé, j'ai vu des hommes en bleu habillés, il y avait des gars en blanc, et blablabla. Moi, lorsque je vais arriver, je ne serai pas sur ces gars en bleu, ni sur ces gars en noir, en blanc. Moi, je vais dire à Yasmina, quand je suis arrivé, les flics, ils étaient partout, c'était chaud, il y avait un embouteillage monstre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun en phase sur ce qui pour lui le mérite. Comme nous en phase, chers amis. Chacun met l'accent sur quelque chose. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'essence même de ce qui s'est produit ne change pas. Parce que ces trois hommes nous parlent de ce bateau qui a traversé le lac et qui est arrivé sur ce bord, sur ce rivage, n'est-ce pas? Ces trois hommes nous disent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé lorsqu'il est arrivé. Cette chose, c'est qu'un homme a été délivré, n'est-ce pas? Et disant cela, ces trois hommes en face le fait que Jésus a le pouvoir au-dessus de ces choses, n'est-ce pas? Sommes-nous en phase? Et ensuite, les trois disent à l'unisson que ces personnes ne sont pas parties avec Jésus parce que Jésus l'a renvoyé travailler dans la décapole. Sommes-nous en phase? Donc, dans l'essence même, rien ne change. Est-ce que vous voyez la chose maintenant? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Question. Pouvons-nous dire que ces hommes se contredisent? Pouvons-nous dire qu'ils se contredisent? Ok. Parce que s'ils se contredisaient, que est-il pu se passer en lisant cela? On aurait trouvé des différences dans les récits. Mais la seule différence qu'on trouve dans ces récits sont dans le détail. Mais dans l'essence même, le message même qui est véhiculé, chers amis, il n'y a aucune différence, sommes-nous en phase? Donc pouvons-nous parler de contradiction? Sean, je vais partir. Pouvons-nous parler de contradiction? Non, chers amis. Si on s'arrête sur le détail, on est pointilleux. On aura de quoi travailler. Mais l'essence même est là et demeure. Le message, si je dois prêcher à partir de Matthieu, si je dois prêcher à partir de Marc, sur cette même histoire, ou encore si je dois prêcher à partir de Luc sur cette même histoire, ma conclusion sera la même. Sommes-nous en phase? Ma conclusion sera la même. Donc je vous repose la question. Sommes-nous dans une contradiction? Non, chers amis. Non, chers amis. Il y a des détails embêtants. C'est vrai. C'est comme lui qui va raconter à Yasmina son histoire, comme c'est le copain, ton mari? Ton copain? Ton mari. Comme c'est le mari de Yasmina. C'est vrai, si c'était ton copain. Donc, c'est le mari de Yasmina. Il aurait arrangé les choses parce qu'il sait ce que Yasmina aime, pour que Yasmina le voit comme un héros. Mais après, moi, si je viens voir Yasmina, moi, je vais lui donner les faits. Les faits tels que étaient. Yasmina va se dire, ouh, ok. Mais Yasmina aura l'essentiel de cette histoire parce que lorsqu'elle lira son journal demain matin, elle verra qu'il y a eu ces 6 morts, elle verra que les voitures étaient écrabouillées, elle verra que les flics étaient présents, elle verra que ces hommes en bleu étaient présents, elle verra que ces filles en jaune étaient présents. Oups. Ok? Nous sommes en face, chers amis. Mais il a décrit la chose selon l'angle qu'il avait de la chose. Et moi, je viens, je décris la chose selon l'angle que j'avais de la chose. Mais l'essence même reste la même. Donc, quelqu'un pourrait dire, ah mais, n'ont-ils pas été inspirés, ces hommes qui ont écrit la Bible? N'ont-ils pas reçu de Dieu? Alors, pourquoi nous avons ces différences? Car c'est ce que ce jeune homme m'a dit, lorsqu'on a développé là-dessus. Et voici ce qu'il ne savait pas. Ah, le titre, ce qu'il ne savait pas. Voici ce qu'il ne savait pas. Alors, je lui ai répondu oui. Mais pour l'embêter un petit peu, je lui dis, mais que faisons-nous de Luc qui soutient avoir fait des recherches? Ah ah. Luc ne dit pas qu'il a reçu une vision. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, plein de gens reçoivent des visions. Et un jour, une dame a appelé ma femme et lui dit, c'est bien à ma femme qu'il faut faire ce genre de choses. Et la personne lui dit, oh, le Seigneur m'a montré que bla 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 bla. Ma femme lui a dit, ok. Ma femme l'a écouté jusqu'au bout. Et elle continue. Dieu, je ne sais pas si c'est dans une vision, si c'était un rêve, je ne peux pas réellement te dire, mais je sais que Dieu voulait que tu comprennes cette chose. Lorsqu'elle a fini, ma femme lui dit, as-tu fini? Elle dit, oui. Alors là, ma femme lui dit, ok, maintenant on va reprendre tout ce que tu as dit. Mais avant de commencer à parler, tu me diras, ainsi parle l'Éternel. Vous ne l'avez pas, non. You get it. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il parle à un homme, lorsque cet homme va vers quelqu'un d'autre, il doit introduire sa pensée par « Ainsi parle l'Éternel ». Donc si Dieu t'a montré quelque chose sur moi, lorsque tu viendras me voir, tu me diras « Wilfried, ainsi parle l'Éternel ». Là, je vais t'écouter. Mais lorsque tu viens me voir et puis que tu es dans ton truc là, Dieu me montre que… Ouh, vrai, le bois tombe. Dieu me montre que… Mon frère, les choses seront rudes. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit. Dieu t'a parlé, il t'a dit quoi? Ah bon? Pourquoi il n'est pas capable de venir me le dire à moi? Qu'est-ce qui se passe? Il a peur de moi ou quoi? Hein? Non, il n'a pas peur de moi. Je suis sa créature. Ah pourquoi c'est toi qu'il va voir pour venir me voir? Ah non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un prophète. Alors si c'est un prophète, ma femme a raison. Si tu viens me voir, tu viens avec « Ainsi parle l'Éternel ». Là, je vais t'écouter. Alors, lorsque ma femme lui a dit « On va reprendre tout ce que tu as dit, mais au début de ta phrase, tu vas mettre « Ainsi parle l'Éternel ». Elle a rigolé, elle était gênée, et elle a souhaité une bonne journée à mon épouse. C'est surtout à mon épouse qu'il faut venir faire ce genre de choses. Je sais de quoi je parle. Bonne journée. Et puis, elle est partie. Elle a dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris la chose. » Donc, comprenez-moi bien. Lorsque je lui ai dit parler de Luc, je savais de quoi je lui parlais parce que Luc a fait des recherches pour avoir le résultat qu'il a. Et pourtant, Luc qui n'était pas un juif, Luc qui n'a pas reçu ces espèces de houhouhouhou. Et dans la Bible, est-ce que nous pouvons dire que Luc n'a pas été inspiré? Donc nous commençons à comprendre une chose. L'inspiration n'est pas cantonnée juste à une chose. Être couché là et puis houhouhou. Non. Dieu a diverses façons de se révéler à un homme. Dieu a diverses façons d'inspirer un homme. Un va recevoir des visions, bien. L'autre va recevoir des rêves, bien. À un autre, chers amis, il va lui donner ce qu'on appelle la conviction. Est-ce que nous sommes en phase? Luc avait cette conviction dedans de lui qu'il fallait qu'il fasse cette recherche. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout dans cette affaire. Parce qu'il fallait éclaircir toutes ces choses. Il le dit clairement dans son premier chapitre, chers amis. Il le dit clairement dans le chapitre 1, dans les premiers versets. Il le dit. Maintenant, j'ai posé comme question à ce jeune homme. Est-ce qu'on peut dire que Luc n'a pas été inspiré? Oh, question. Il me regarde. Parce qu'il ne sait pas encore où je vais. Alors, je continue. Et je lui dis, tu sais quoi? Je t'ai parlé de Luc parce que je veux qu'on considère une chose maintenant. C'est quoi être inspiré? C'est quoi l'inspiration? Beaucoup de gens pensent qu'être inspiré, c'est recevoir une dictée venant de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là et puis ils entendent une voix. Et puis Dieu va dire, ok, tu leur diras. Et puis ils vont écrire, tu leur diras. Demain, le ciel va s'obscurcir. Demain, le ciel va s'obscurcir. Après ça, il va arrêter de rire. Après ça, il va arrêter de rire. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Beaucoup de gens limitent Dieu à cela. Yep, ça s'est passé comme ça. Vous avez ça aussi dans la Bible, des prophètes, chers amis, qui ont reçu une parole venant du Seigneur. Et Dieu leur dit, va et rapporte fidèlement ce que moi je t'ai donné. Donc lorsqu'ils viendront et qu'ils parleront, ils diront exactement ce que Dieu a donné de dire. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, parlons un peu de... C'est Jérémie qui avait déjà écrit toute une partie du livre. Ce livre a été détruit par le roi. Vous pensez que Baruch a dû attendre que le Seigneur lui refasse la dictée? Non, chers amis. Nous ne pouvons pas limiter l'inspiration à cela. Donc maintenant, ça m'a conduit à comprendre réellement ce que est l'inspiration. Donc, j'ai utilisé mes outils. J'ai utilisé mes outils. Mon outil, c'est le grec. Nous savons que le Nouveau Testament, nous l'avons en grec, donc il faut aller dans le grec pour comprendre ce qui se passe là. Et le mot grec, pour ce mot inspiré, vous voulez le mot? Vous êtes sûr? Alors, vous allez répéter avec moi. Vous allez répéter avec moi, d'accord? Il faut mettre la langue entre les dents. Ce ne sera pas difficile pour ceux qui parlent anglais. Yes, yes, because... Yeah, parce que cette lettre en grec se prononce ainsi. Il faut mettre la langue entre les dents. Et ça donne Théo. Théo. Neustos. Alors, on y va tout seul. Théo. Neustos. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire respirer par Dieu. Respirer par Dieu, chers amis. Est-ce que vous me suivez? On y va, on continue. Dieu a donc soufflé la vérité dans l'esprit de l'homme. Voilà ce que ce mot implique. Le fait que Dieu ait soufflé, ce mot respiré, ce souffle de Dieu, qui fait référence à l'esprit du Seigneur. Donc on comprend que Dieu, chers amis, a soufflé cette vérité dans l'esprit de l'homme. Où? Dans l'esprit de l'homme. Sommes-nous dans ce qu'on appelle une dictée? Non, chers amis, on continue. Donc, eux-mêmes alentour, ces hommes, l'ont exprimé par les mots que nous trouvons dans la Bible. Donc Dieu a soufflé la chose dans leur esprit. Et ensuite, ils ont exprimé cette chose soufflée par Dieu dans la Bible. Donc l'inspiration est donc le procédé par lequel Dieu communique sa vérité éternelle. C'est quoi? Il y en a un qui peut me reprendre ça? S'il me reprend ça, pasteur, tu lui dois 50 euros ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui veut 50 euros? Non, ouais, mais d'accord. Alors je recommence. Je vais vous dire une chose. J'ai dit, l'inspiration est donc... Le pasteur me regarde déjà sur les côtés. Il s'est dit, tu crois que tu vas prendre mon dernier 50 euros? L'inspiration est donc le procédé par lequel Dieu communique sa vérité éternelle. J'ai un texte intéressant. J'ai un texte intéressant. 2 Pierre 1 au verset 20 nous dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation. Comment? Particulière. Normalement, ça c'est l'endroit où je m'excite. Mais vous ne me donnez pas l'envie. Donc on va reprendre ça. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Objet d'interprétation comment ? Particulière. Continuons. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Je dis quoi ? Car ce n'est pas par quoi ? Par une volonté d'homme qu'une prophétie n'ait jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Vous vous rappelez le fameux mot, vous vous rappelez ? Dieu souffle cette vérité dans l'esprit de l'homme, chers amis. Est-ce que nous sommes en face ? Nous ne sommes pas dans une espèce de dictée. Donc ces révélations prirent la forme. Et écoutez-moi, cette phrase est importante. Ces révélations prirent la forme d'un langage humain avec toutes ses limites et ses imperfections, quoi qu'elles demeurent, le témoignage de Dieu. Wow! Il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose dans cette phrase? Je le relis. Je relis cette phrase. Je la relis. Ces révélations prirent la forme d'un langage humain. Ils ont pris quelle forme? La forme d'un langage humain avec toutes ses limites et ses imperfections. Quoi qu'elle demeure, le témoignage de Dieu. Donc, Dieu a soufflé cette vérité dans l'esprit de l'homme. Sommes-nous en face? Mais l'homme, on va dire que Dieu va travailler avec l'homme. Comment je peux dire ça? On va dire que je suis un marin pêcheur, on va rester à l'époque biblique. Dieu va travailler avec moi, mais il va travailler avec moi avec mon habilité de marin pêcheur. Est-ce que marin pêcheur, c'est un docteur en philosophie? Je vous pose la question, est-ce que marin pêcheur est un docteur en philosophie? Les mots qu'il va utiliser ne sont pas les mots que va utiliser un docteur en philosophie. Je vais en quelque part avec vous, suivez-moi bien. Donc, on comprend que Dieu, s'il choisit le marin pêcheur, il veut de ce marin pêcheur, ce nous sommes en face. Et je vous invite, non, je ne peux pas vous inviter, ça dépend. Ceux qui savent lire le grec, vous savez, lorsqu'on vous enseigne le grec au séminaire, en tout cas dans les pays anglophones, vous savez avec qui il commence? Vous savez pas avec qui il commence? Je vais vous dire avec qui il commence. Il commence avec Pierre. Il commence avec des hommes comme Jean. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le grec est simple. Ce sont des mots simples. C'est comme si un homme qui n'a pas étudié va vous écrire une lettre, il va vous l'écrire avec ses mots à lui. Il va vous l'écrire avec son vocabulaire, avec ses connaissances, sommes-nous en face. Maintenant, cette même lettre sera écrite par un bonhomme qui a bac plus 15. Et puis il veut l'étaler comme on étale du Nutella. Croyez-moi, lorsque vous lirez cette lettre, vous aurez besoin d'un dictionnaire à chaque mot. Et c'est ce qui se passe avec Paul lorsque vous lisez Paul en grec. Yep! C'est ce qui se passe avec Paul lorsque je prends ma Bible en grec et que je désire que, oh, comme dirait mon ami Fabien en talk show, lorsque je prends ma Bible en grec et puis que par exemple je me dis, oh, c'est l'ouverture du sabbat, je vais lire le premier chapitre de Jean en grec, histoire de ne pas perdre. To keep it up. En lisant cela, chers amis, on peut clairement voir que c'est pas n'importe qui a écrit cela si je lis Paul. Ses tournures de phrases, sa grammaire, ses mots, chers amis. Lorsque je lis Jean, pareil, c'est encore autre chose. Mais là, la chose devient plus intéressante. C'est lorsque je compare Daniel et Jean. On va voir ça durant ces deux semaines. Nous verrons que lorsque cette prophétie est arrivée avec Daniel sur l'histoire du monde et ce qui allait se passer. Elle est arrivée avec Daniel, sommes-nous en face. Daniel a écrit la chose d'une certaine façon. Nous sommes en hébreu. Il a écrit la chose d'une certaine façon. Maintenant, lorsqu'on va voir ce que Jean a écrit, puisque ces histoires, on peut travailler avec ces deux livres. D'ailleurs, lorsque vous êtes au séminaire, vous appelez Daniel et Révélation. L'un ne va pas sans l'autre. Donc maintenant, comprenez bien une chose. Lorsqu'on prend les deux, lorsqu'on regarde comment Jean s'exprime pour nous faire comprendre la chose, et qu'on retourne à Daniel pour voir comment Daniel se prend pour nous faire comprendre la chose, si on rentre dans ce qu'on appelle la grammaire, construction de phrases et les choses comme ça, on va voir que, oh, Daniel, Mais lorsqu'on va dans Jean, on va se dire, ok, ça se lit comme... C'est... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a inspiré ces deux hommes? Alors pourquoi Jean, dans Révélation, n'a-t-il pas pris les mêmes mots que Daniel a utilisés avant? Ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Dieu souffle cette vérité dans l'esprit de l'homme. Et l'homme, Dieu travaille avec lui, avec ses capacités, ses moyens. Ce que nous sommes en phase. Mais la vérité demeure. Il n'y a aucune différence entre Paul, lorsque nous parlons de Dieu, il n'y a aucune différence entre Paul et Jean. Il y a bien sûr des hommes qui vont vous dire, j'aime beaucoup le style de Paul. Mais est-ce que pour autant ils vont négliger Jean? Non, parce que Jean demeure la parole de Dieu, chers amis. Pierre demeure la parole de Dieu, chers amis. Lorsqu'on regarde Luc, la façon qu'il a écrit, comment Luc est construit, comment la chose se présente, chers amis, on comprend qu'on a affaire à un homme qui a fait un travail formidable. Il y a d'autres livres, lorsque vous les lisez, la chose... Il n'y a pas forcément un style particulier, il n'y a pas forcément un vocabulaire particulier, mais c'est le même Dieu qui parle. Et lui a décidé d'utiliser Docteur Luc, comme il a décidé d'utiliser le marin pêcheur, chers amis. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et ça, nous devons le comprendre, chers amis. Il est très intéressant de comprendre cela. Maintenant, nous arrivons à un verset très intéressant. Parce que je dois m'arrêter. Le pasteur va me faire la tête encore. Je lui avais dit pas long. Mais bon, bref. Il dit dans 2 Timothée 3, au verset 16, toute écriture est inspiré de Dieu, chers amis. Il utilise ce même mot. Toute écriture, chers amis, vient de Dieu. Dieu souffle cette vérité dans la tête de la personne. Et la personne, mon ami, va travailler avec ses moyens. Mais croyez-moi, le résultat sera le même. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, chers amis. Dieu donne les moyens de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir, chers amis? C'est très important. Maintenant, je vais terminer avec cette note pour bien comprendre ce que je veux dire. Ici, Paul écrit à Timothée. Timothée est vu comme un jeune homme parce que Paul, lorsqu'il présente Timothée, le présente comme étant son fils. Et c'est un bonhomme qui a rencontré Paul à Lucius très jeune, parce qu'il était de Lucius. Très, très, très jeune. Il est parti avec Paul, il a bravé des obstacles avec Paul, il a fait plein de choses avec Paul. Paul, lorsqu'il a regardé ce jeune Timothée, lui a donné la responsabilité de l'église d'Éphèse. Pourquoi il n'a pas donné à un autre, chers amis? Parce que malgré le fait que ce bonhomme était jeune, il savait que Dieu était avec lui. Donc parce que Dieu est avec lui, il lui a donné la responsabilité, chers amis, de tenir cette église, de choisir les anciens. Vous vous rendez compte? Vous avez ce petit bout de truc là qui vient devant toi là, et puis il te dit, mon frère, je pense que tu feras un bon ancien. Pasteur Dording va venir, mon frère, je pense que tu feras un bon ancien. Yeah. Comprenez ce que je suis en train de dire? Et là, la différence n'est pas parce que lui, il a des diplômes ou pas lui, c'est juste par rapport à ce qu'il représente. C'est un jeune homme. Paul l'a choisi lui. Et lorsque Paul l'a choisi lui, Paul lui dit d'aller de l'avant. Et à cette époque, il y avait toute une espèce de philosophie bizarre, étrange concernant l'évangile. Toute une espèce de philosophie. Et il a choisi ce jeune homme afin qu'il se mette debout devant ces grands hommes, tous ces judaïsants. Lui allait se mettre debout là et allait se battre pour la foi. Et c'est pour ça que Paul atteint un moment, le niveau où il dit, toute écriture, hé, jeune Timothée, n'oublie pas d'où tu viens. Tu as grandi dans la foi en stature, maintenant n'oublie pas. Toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, n'aie pas peur d'utiliser la parole de Dieu. Ils sont intelligents. Yet, ils vont te trouver toute espèce de choses. Mais il demeure que cette parole vient de Dieu, chers amis. Point. Bas à la ligne, comme dirait ma fille. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous, nous puissions remettre la parole de Dieu à sa place. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous, nous puissions arrêter de négliger ce que nous avons et que nous appelons la Bible, chers amis. Ce soir, j'aimerais que chacun ici puisse comprendre l'importance qu'a ce livre. Ce livre n'a pas été simplement écrit par des hommes. L'auteur de ce livre n'est pas Marc, Jean, Luc, Daniel ou encore des choses comme ça. D'habitude, lorsque je suis en conférence, je fais un petit jeu, je demande qui est l'auteur de la Bible ou quels sont les auteurs de la Bible. Je gagne toujours. Parce qu'il y a toujours un bonhomme qui va monter et puis qui va vouloir l'étaler comme du Nutella et qui va me citer tous les auteurs de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais la Bible n'a qu'un auteur. C'est Dieu. C'est Dieu. La Bible n'a qu'un auteur, chers amis. C'est Dieu, l'auteur de ce livre, chers amis. C'est Dieu et Dieu seul. Ne laissez personne venir vous perturber avec leur Da Vinci Code. Dieu est Dieu seul. Ce livre doit retrouver sa place dans vos vies. Ta parole est une lumière sur mon sentier. N'est-ce pas ce que dit la Bible, chers amis? N'est-ce pas ce que dit la Bible, chers amis? Donc ça veut dire, si je n'ai pas ça, mon bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bien-aimé? J'aime ce qu'il a dit. Je ne saurai pas où je vais. Parce que c'est exactement ce qui se passe, mon bien-aimé. Je ne saurai pas. Ça va? Je ne saurai pas où je vais, chers amis. J'ai besoin de ça aujourd'hui dans le monde. J'ai besoin de ça aujourd'hui, chers amis, pour me guider. J'ai besoin de ce livre dans ma vie aujourd'hui, chers amis. Nous avons besoin de ce livre, chers amis. Ce livre nous dépeint notre Dieu. Vous avez remarqué une chose avec la Bible? La Bible ne vous apporte aucune preuve que Dieu existe. Vous n'avez pas remarqué ça? Elle vous dépeint simplement son caractère. Lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez le caractère de Dieu. Qui il est, comment il fonctionne, comment il travaille. Ses objectifs. Dieu n'est pas là pour vous dire « J'existe ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que vous fonctionnez comment? Par la foi. Donc par la foi, chers amis. Il y a des vérités qu'il faudra accepter simplement comment? Par la foi, chers amis. Car la foi, chers amis. La foi, chers amis. Nous garantit une relation stable avec Dieu. La foi, chers amis. Nous permet de remettre Dieu à sa place. La foi, chers amis. Et quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi? Quelquefois, la foi fait peur. Je me rappelle, un pasteur disait, je suis allé prier pour un malade. Lorsque j'ai prié pour le malade, parce que c'est un pasteur d'une grande ville. Une grande ville très très loin d'ici. Et vous savez, dans les grandes villes, ils ont des difficultés à croire au fait que des gens peuvent être guéris miraculeusement, ou des choses comme cela. Donc lui, il est pasteur. Mais il a déjà adopté cet esprit des grandes villes. Ouh! Je suis le pasteur. Attention. Et puis un jour, c'est un homme qui prie beaucoup. Dieu l'a surpris. Il est allé prier pour une fille très malade, qui ne pouvait même pas bouger. Il s'est mis à genoux au chevet de cette fille et il a commencé à prier. Seigneur, il m'a dit, Will, je n'avais jamais prié comme ça avant. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais dans la prière, je sentais que le ciel descendait. Je sentais que Dieu était à côté de moi. Je pouvais toucher Dieu à travers cette prière. J'étais tellement content que j'étais tellement inspiré. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la fille était debout devant moi. J'ai couru. J'ai couru. Et c'est en courant que je me suis souvenu que Dieu dit qu'il nous donne ce pouvoir. Alors je suis revenu et j'ai demandé pardon à la bien-aimée. Ensuite, je lui ai dit, va voir le médecin, fais ce que tu as à faire et reviens nous voir à l'église. Yep! Ça, c'est ce que la foi peut faire, chers amis. Ça, c'est ce que la foi peut faire, chers amis. Mettons notre foi dans la parole du Seigneur. Remettons notre confiance dans la parole du Seigneur. Et laissons Dieu agir dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors, pourquoi ne pas se lever, chers amis? Et puis, nous allons prier directement ce soir. Si vous êtes d'accord avec cela. Dieu est bon, chers amis, n'est-ce pas? Dieu est bon. Je souhaite que chacun puisse comprendre que des détails, quelquefois, des détails nous éloignent du Seigneur. Mais l'essence même demeure. Et l'essence même, lorsqu'elle demeure, chers amis, nous garde tout près de Dieu. Lorsque nous gardons cette foi solide dans le Seigneur, chers amis, nous devenons imperturbables. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes comment? Imperturbables. À des moments, nous aurons des moments de faiblesse. Nous allons penser, nous allons dire, oh, Dieu m'a abandonné. Je me rappelle lorsque j'étais à Trinidad, il est arrivé que je n'ai rien à manger. Vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas. Quand tu travailles sur le campus, c'est 10 dollars trinidadiens de l'heure. 10 dollars trinidadiens, vous savez c'est quoi? Je ne sais même pas si c'est un euro. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Rien. Et le pire, c'est que vous êtes déjà à découvert sur votre compte étudiant. Donc on ne vous donne pas cet argent. Lorsque ça va sur votre compte étudiant, ça reste là. Ils vous disent merci, mais vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Donc souvent à Trinidad, je me retrouvais dans des salles de cours, le ventre vide. Vous ne pensez pas que j'étais seul. Je pensais que j'étais seul. Mais en discutant avec mes bien-aimés, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Nous étions plusieurs dans ce cas-là. Plusieurs, chers amis, espérant que Dieu fasse quelque chose. Alors, vous savez ce qu'on faisait? On se mettait à chanter, à louer le Seigneur. Mais on n'était pas sincère parce qu'on disait, si on chante et qu'on loue, il va faire quelque chose. Chantons, mes amis. Je veux chanter ton grand amour qui sauve et qui délivre. Et puis, de temps en temps, on regarde pour voir si quelque chose se passe. Rien. Un jour, rien. Deux jours, rien. Alors, comme il le sait, des fois, on allait voir Harry pour manger du... Comment il appelle ça? Des œufs mélangés à des... du thon. Il rigole, hein, tu vois, c'est... Ouh, la première fois que j'ai vu ça, j'ai failli vomir. Mais quand tu as faim, tu le manges. Je vous dis sincèrement, chers amis, c'est là que j'ai compris ce que la foi peut faire. C'est sur ce campus que j'ai réellement connu Dieu. Avant cela, je faisais déjà des conférences un peu partout. J'avais mon expérience, je vais vous parler de cette expérience un autre jour. Mais à Trinidad, je me suis retrouvé un samedi matin où je n'avais même pas une paire de chaussures pour aller à l'église, chers amis. Yep. Alors je me suis dit, je vais rester là, je ne vais pas aller à l'église. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille à l'église, alors tu feras quelque chose. Lorsque je me suis levé, j'ouvre la porte, un pasteur. Eh, mais Will, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, j'ai pas de chaussures, j'ai rien, alors je ne peux pas aller à l'église. Mais t'as pas de chaussures, parce que t'as pas de chaussures, tu vas pas à l'église. Je dis, ben, j'irai à l'église du pied, mon pasteur. Il me dit, ben, donne-moi une minute. Il est parti, il est revenu avec une paire de chaussures en état. Yep. Et il me l'a donné. Voici ce que la foi peut faire. Voici ce que la foi peut faire, chers amis. Mettez votre foi dans la parole du Seigneur. Ne laissez personne venir vous dire que cette Bible est inconsistante et que Dieu n'est pas constant. Dieu est un Dieu constant. Gardez ça à l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Baissons la tête et nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons échangé ce soir. Nous te remercions car nous avons vu à quel point, Seigneur, il est important, Père éternel, de te garder à l'esprit. Il est important, Père éternel, de garder notre foi dans ta parole. Il est important, Seigneur, de ne pas nous attarder sur des détails qui peuvent s'expliquer avec un peu de recherche, Père éternel. Père, accorde-nous cette foi solide, Seigneur, car tous ici n'ont pas cette capacité ou n'ont pas l'opportunité, la possibilité d'aller en profondeur, de faire des recherches ou quelque chose comme cela. Mais donne-leur la foi, Père éternel. Qu'ils gardent cette foi et qu'ils grandissent avec elle, Seigneur. Certainement dans cette salle, nous avons des hommes qui viennent pour la première fois dans cette église ou qui ont l'habitude d'y venir, qui n'ont jamais fait alliance avec toi, Père éternel, qui peut-être n'ont jamais lu leur Bible, Seigneur, mais qui ont entendu tellement de choses, Père éternel, tellement de choses, qui ont déjà même peut-être lu ce livre, le Da Vinci Code, Père, trois fois saint. Donne-leur de comprendre, Père, trois fois saint, qu'ils doivent lire cette Bible pour eux-mêmes. Amen. Qu'ils doivent la lire pour eux-mêmes, Seigneur. Et c'est en la lisant, Seigneur, qu'ils comprendront qui tu es, Seigneur. Et ces détails, Seigneur, n'auront plus d'importance, Père. Car ils verront quel grand Dieu tu es, Père, trois fois saint. Alléluia. Entre tes mains, je nous remets. Entre tes mains, je me remets, Seigneur. Entre tes mains, je remets nos amis qui nous visitent, Seigneur. Entre tes mains, je remets les membres de cette église, Père éternel, la direction de cette église. Et je te prie toi-même de prononcer cette bénédiction au nom de Jésus. Amen.